Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Matteo a grandi en Afrique avec ses parents. Très jeune, il comprend que ses expériences de vie à l'étranger impacteront le reste de son existence. Matteo a fait du voyage son mode de vie. Un parcours incroyable entre les îles du Pacifique, le continent africain et l'Amérique du Sud. Attiré par la sérénité qu'il dégage et sa force tranquille, j'ai voulu lui donner la parole pour en savoir plus sur son histoire de vie. S'ensuit un très bel échange avec ce voyageur artiste et musicien connecté à son cœur. Avec moi Matteo que je rencontre, donc voilà, cette émission s'appelle Regarde ailleurs. L'idée c'est un partage d'expérience, un partage de parcours de vie, souvent en lien avec le voyage, avec le reportage, avec l'ouverture, l'ouverture sur soi, l'ouverture sur les autres. Et je rencontre un voyageur, voilà, donc l'idée c'est de partager cette rencontre avec toi auditeur. Donc Matteo, on s'est rencontré là dans un cercle d'hommes et j'ai cru comprendre que tu avais passé pas mal de temps sur les routes du monde. Donc on va peut-être revenir à cette enfance hein, que tu as passée, je crois, en Afrique. Donc voilà, présente-toi et parle-nous un petit peu dans cette première question de d'où tu viens.
Merci Alex. Et je m'appelle Matteo. Je suis né pendant une guerre civile au Zaïre, où mes parents habitaient depuis déjà plusieurs années. Ma mère a dû rentrer en France pour m'avoir, et quand j'ai eu 3 mois, elle m'a ramené en Afrique, et j'ai commencé ma vie au Niger, du coup. On y a passé quelques années, la vie là-bas était assez difficile pour mes parents et pour tout ce qui se passait au niveau politique. À partir de là, on est parti au Cameroun, au Congo, au Gabon, en Côte d'Ivoire, et j'ai grandi à peu près 20 ans en Afrique de l'Ouest.
Tu te retrouvais sûrement souvent le seul blanc dans les endroits dans lesquels tu étais.
Ah oui, que ce soit à l'école, que ce soit dans ma vie quotidienne ou même avec la famille, on était très souvent entouré avec des gens d'autres cultures, d'autres couleurs et je suis très reconnaissant d'avoir eu des parents qui m'ont fait grandir avec des valeurs très ouvertes, très respectueuses.
Comment on trouve sa place hein, quand on est enfant et qu'on incarne déjà une différence qui est marquée sur son visage ?
Alors pour être honnête avec toi, cette différence-là, on ne s'en rendait pas compte quand on était gamin jusqu'à ce qu'on ait 8-9 ans. Parce qu'à cette époque-là, en fait, la couleur de peau pour nous, elle ne représentait rien. Mais c'est à l'école française, dès qu'on a commencé à nous apprendre l'histoire de la colonisation, que du jour au lendemain, tout a changé. Il y a du racisme qui s'est installé dans l'école parce qu'on nous a raconté ce que les Blancs ont fait aux Noirs et ce qu'on a fait aux gens de ce pays. Et à partir de là, on a vraiment senti la séparation. Pour moi, mon enfance, autant je peux te raconter les souvenirs merveilleux où je me souviens être dans la jungle, au Cameroun, au Congo, à explorer avec les locaux et à vraiment me sentir en sécurité. Autant je peux te parler aussi de tous les moments difficiles où presque tous les jours on voyait des choses assez extrêmes, comme des morts sur la route ou des... Il y a beaucoup de magie noire là où j'ai grandi aussi. Beaucoup de gens qui se font sacrifier, tu peux découvrir des corps comme ça un peu partout. Et c'est vrai que la situation avait souvent été très instable où on était. Donc j'ai des souvenirs très positifs et des souvenirs assez traumatisants quand même de ce qui s'est passé là-bas.
C'est ça aussi qui est intéressant dans les pays dans lesquels tu as grandi. Chaque pays nourrit une spiritualité qui lui est propre et qui lui est différente. Tu parles de magie noire. C'est quelque chose qui intrigue, interpelle, surtout l'occidental qui n'est pas du tout dans ce contexte culturel.
Alors ce dont je peux vous parler comme exemple, par exemple, c'est que au Gabon, le gouvernement est très connu pour utiliser la magie noire pour justement développer son pouvoir, son contrôle et... C'était très souvent que les politiques, par exemple, utilisaient le voudou. Et je peux raconter des trucs assez... on nous parlait souvent d'histoires où les politiques engageaient, on va dire, les sorciers ou ces gens de magie noire pour aller sacrifier des jeunes femmes, leur découper leur clitoris et ensuite le donner aux politiques pour qu'ils l'utilisent, pour que ça renforce leur charisme et leur prise de parole et leur confiance en soi, pour ensuite donner des speeches à toute la population. Et ça, quand on t'en parle une fois, tu te dis, bon, c'est souvent un mensonge ou une légende, mais non, quand on t'en parle dans tous les pays où tu vas, c'est une réalité. Et c'est quelque chose d'assez difficile là-bas parce qu'une bonne partie de la population est, on va dire, sacrifiée pour les bienfaits des politiciens et du gouvernement.
C'est effrayant de voir à quel point une croyance peut être profondément ancrée dans une culture et sans vraiment se soucier finalement des droits de l'homme.
Les droits de l'homme en Afrique, c'est quelque chose qui, hélas, a très peu existé ces derniers siècles. Jusqu'à aujourd'hui, je pourrais dire que l'esclavage existe encore. il est moderne, il est sans les chaînes, mais il existe toujours. Surtout avec les accords entre la France et l'Afrique et tout ce qui se passe encore de nos jours, c'est... Je ne crois pas forcément aux droits humains sur ce continent. Ou en tout cas, on les a tellement opprimés et réprimés qu'il y en a très peu qui osent même y croire.
Bon, l'Afrique, c'est compliqué d'en parler parce que c'est un continent absolument énorme. Donc, on ne va pas faire une émission sur l'Afrique. Ça serait au-delà de nos compétences parce que c'est très, très complexe. Ce qui s'y passe, c'est d'un pays, d'une culture, c'est très différent. Mais c'est plutôt toi qui va m'intéresser et ton itinéraire de vie. Donc, tu as passé une enfance sur les routes avec tes parents, voyagé de pays en pays. Tu me parlais de racines. Ce qui t'a manqué, c'est finalement un ancrage dans un lieu, dans un pays. Tu aurais très bien pu faire le choix, peut-être à 18 ou 20 ans, jeune adulte, de te dire bah, « Tiens, maintenant, je vais essayer de m'enraciner quelque part » ou non. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de continuer à voyager? Parce que si j'ai bien compris, la route, tu as continué seul après.
Alors en fait, j'ai essayé. Lorsque j'avais 20 ans, j'ai terminé du coup mon baccalauréat, mon lycée, etc. quand j'étais au Gabon. Mais le truc, c'est qu'il n'y avait pas d'université faite pour nous là-bas, on va dire. C'était fait que pour les locaux. Du coup, j'ai dû être envoyé en France par mes parents dans l'objectif de devenir, avoir la carrière dont les parents rêvent pour leurs enfants. Donc pour moi, je voulais étudier la psychologie par rapport à mon bégaiement. C'était vraiment une vocation. Et du coup, à 20 ans, je suis arrivé en France dans l'intention de me dire je vais m'installer là-bas, je vais me reconnecter à mes racines, à ma terre natale. Et au final, ça a été un choc qui pour moi m'a fait traverser la période la plus profonde de ma vie, dans le sens où j'ai eu beaucoup d'épisodes suicidaires quand j'étais en France. Je suis tombé en dépression parce que la vie n'avait plus de valeur. J'avais l'impression de vivre dans une cage dorée où tous les gens autour de moi, que je découvrais en tout cas là où j'habitais à Bordeaux, tout le monde avait tellement de confort, de matériel, d'argent, mais pourtant je voyais tout le monde faire la gueule du début à la fin. Et pour moi, je comprenais pas ça en fait. De venir d'un continent, d'un pays, d'une culture qui a tant souffert de l'esclavage et de la colonisation faite par la France spécifiquement, que lorsque je suis arrivé là-bas, je me suis dit c'est quand même la terre promise, parce que c'est aussi le rêve que l'on vend aux Africains. Au travers des médias, de la télé, de la radio, on fait croire aux Africains que la vie en France c'est le paradis. Et c'est pour ça qu'il y a des centaines de personnes... des dizaines de milliers, voire de millions qui essayent de s'échapper de leur pays pour arriver en Europe et qui au final arrivent là-bas et se rendent compte que la vie est encore plus difficile en France que ce qu'elle était en Afrique où ils habitaient.
C'est là où on comprend que le matériel est finalement qu'une illusion, parce que ce qu'on voit de la France quand on vit en Afrique, c'est le côté développement économique et matériel où on a l'impression que c'est ça qui va nous permettre de nous sentir bien et mieux, alors qu'en fait, t'as l'air de dire qu'en arrivant ici, tu étais plus dépressif qu'avant, alors que t'étais dans l'opulence avec beaucoup plus de choses et c'est pas ça qui va nous permettre de nous construire.
Je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, cette surconsommation, c'est pour essayer de remplir un mal-être qui est permanent chez les gens d'Occident. Et quelque chose que j'ai vu aussi en France beaucoup, c'est non, je ne pense pas que l'argent ou le matériel ou quoi que ce soit nous permette en tout cas d'avoir une vie pleine de sens ou de valeur. Je pense qu'elle peut nous apporter quelques doses de bonheur assez instantanées, mais qu'elle ne construit pas une joie sur le long terme, en tout cas parce qu'elle ne nous satisfait pas. Et je pense que la société en France a fait en sorte de gaver sa population pour leur permettre d'oublier un peu leurs problèmes. Parce que plus on en a, au final, moins on a l'impression que ça va pas. Alors que du début à la fin, on se rend compte que si, c'est juste pour cacher en fait tout ce qui se passe vraiment à l'intérieur.
On est un peu dans une société de la distraction, où on va chercher un plaisir extérieur en fait, à travers différentes activités, mais c'est vrai qu'on oublie de tourner vers soi.
C'est pour éviter de se regarder dans le miroir et d'accepter ce que nous, en tant qu'individuels, mais aussi en tant que collectif, en tant que société, avons fait au reste du monde. Parce que pour moi, ce que la France possède, ce que les Français possèdent, ils ne le méritent pas. C'est quelque chose qui s'est construit sur le sang, sur l'esclavage, sur l'oppression d'autres peuples autour du monde. Et je pense que c'est pour ça aussi que ce mal-être est présent. Parce que les gens se rendent compte qu'en fait, tout ce qu'on a, on ne le mérite pas vraiment.
Donc toi, tu rentres en France pour terminer tes études de psycho. D'ailleurs, j'ai du mal à croire que tu bégayes ou que tu bégayais, parce qu'aujourd'hui, tu t'exprimes extrêmement bien. Donc ça peut intéresser tous ceux qui bégayent aussi. Comment tu as fait pour en sortir?
Déjà, ça a été beaucoup de soutien de la part de mes parents, mais ça a été aussi de voir des orthophonistes, des psychologues pendant des années. Après, je dirais que c'était aussi le soutien des locaux là-bas. Disons, quand j'étais en Afrique, je passais la plupart du temps après l'école, soit dans les bidonvilles qui m'ont énormément appris, soit dans les tribus qui, elles aussi, ont permis de me reconnecter à autre chose. Et je me souviens toujours, quand j'avais 8-9 ans, à 1 kilomètre de chez moi, nous, on était un peu dans le quartier français, des blancs qui étaient... On n'était pas riches, mais au moins, on avait toujours un toit, de l'eau, de l'électricité et à manger, ce qui était un privilège et du luxe comparé aux 3/4 de la population locale. Et je me souviens qu'à cette époque, je me posais la question, pourquoi est-ce que dans ma famille, on est blanc, moi je bégaye, mes parents sont déprimés, ça va pas bien du tout, personne n'est heureux. Et en fait, on manque vraiment de l'essentiel, alors qu'à 1 kilomètre de chez moi, il y a des bidonvilles à ne pas en voir la fin. Et on voit là-bas des gens qui sont noirs, qui n'ont pas grand-chose, qui ont très peu de matériel, qui ont des fois pas d'électricité, pas d'eau, rien à manger, mais qui sont heureux, qui ont un tel sens de la famille, des convictions de vie, une connexion à la nature et à eux-mêmes, qu'en fait, ces gens-là, ils ont compris ce qu'était le bonheur, ou en tout cas, à l'époque, ils le comprenaient.
Mais cette notion du bonheur, je veux bien que tu me la définisses, qu'est-ce que c'est pour toi, le bonheur, aujourd'hui?
Je dirais que pour moi, le bonheur, c'est le fait d'accepter la vie telle qu'elle est, le fait de s'accepter et s'aimer tel que l'on est, et le fait de vraiment se sentir comme faire partie de ce monde. Et à partir de là, de vraiment créer un bonheur qui est basé sur le fait qu'on comprend ce qu'on fait sur cette terre. Pour moi, le bonheur, c'est de trouver un sens, c'est d'être quelqu'un de bienveillant, c'est de partager tout ce que j'ai, c'est d'être présent pour les miens, mais pour aussi ceux qui croisent ma route, et vraiment de continuer à ouvrir mon cœur au monde. Mon bonheur, il est basé là-dessus.
Regarde d'ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc tu parles d'une quête de sens qui est un petit peu généralisée aujourd'hui dans un système où on est dans une forme de famine, famine de l'essentiel. On parle de crise économique, on parle de crise éducative, de crise écologique, de crise de sens encore une fois. Et se pose quand même toujours la question de comment fait-on pour trouver un équilibre entre le système tel qu'on le connaît et le chemin qu'on va choisir. Donc tu parlais de la famille Rainbow, où il y a plein de modes de vie alternatifs, mais on vit quand même dans un système où quand on a 20, 25 ou 30 ans, il s'agit de trouver sa place. Comment on fait? Comment tu as fait?
Alors, je dirais simplement d'utiliser la faculté la plus importante de notre corps, qui est l'adaptation, et de comprendre que j'ai un rôle à jouer, qui est tout aussi important et essentiel que des millions de personnes qui font partie de cette même société. Et en fait, pour moi, mon rôle, c'était de découvrir d'abord qui j'étais, en profondeur, et à partir de là, de découvrir quels sont mes talents, quelles sont mes passions, quels sont mes pouvoirs, et de me rendre compte qu'en fait, chaque personne est talentueuse, chaque personne est douée, et en fait, on a tous une place dans cette société. Et pour moi, ce que j'ai fait, c'était de me poser les bonnes questions, en fait. Pas de me dire qu'est-ce que je voulais devenir depuis que j'étais enfant, mais qu'est-ce qui m'a toujours fait rêver, en fait. Quelle est ma place? Qu'est-ce que je veux faire? Pas seulement pour moi ou pour mon pays, mais pour le monde entier. Et dès que j'ai trouvé les réponses, en fait, j'ai réussi à comprendre quel était mon chemin.
Et donc, quelle était la suite de ton chemin?
Alors après ça, en fait, je suis parti jusqu'en Turquie en stop. J'ai fini le chemin de Compostelle qui a été absolument merveilleux. Et depuis l'Espagne, j'ai décidé d'aller voir un peu le reste de l'Europe parce que je voulais comprendre la culture en fait, l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé sur ce continent. La vie était déjà tellement différente depuis l'Afrique jusqu'à la France alors qu'on est quand même voisins que je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du continent européen? Et du coup, je suis parti en stop jusqu'en Turquie. Et sur la route, j'ai découvert l'histoire des pays Balkans. Je suis allé rencontrer aussi des communautés musulmanes, des communautés juives. Je voulais vraiment comprendre pourquoi on en est arrivé à une telle situation d'urgence et de séparation dans les pays développés, comme ce qui se passait à cette époque-là en France. Et après ça, mon chemin m'a amené vers la Nouvelle-Zélande.
Et donc là, tu parlais de voyager en stop, parce qu'à cette époque-là, tu étais fauché. Il y a quand même toujours cette question de comment on fait pour s'en sortir économiquement et continuer à voyager.
Écoute, à cet âge-là, il faut trouver tous les petits boulots possibles et imaginables. Et j'ai essayé quand j'ai quitté la fac de faire un peu comme tout le monde, de devenir serveur, d'aller faire les vendanges, de trouver un petit peu tous les petits jobs à la con qui passent. Et au final, je me suis rendu compte que c'est rare de trouver quelqu'un qui nous respecte en tant que patron ou patronne, de trouver des gens qui nous valorisent vraiment. Et du coup, à force de faire des petits boulots qui m'ont juste aidé à gagner assez, je me suis rendu compte qu'en fait, j'allais mettre tout ce temps-là dans mes passions. Et comment j'ai fait pour faire du stop en étant fauché? Justement, disons qu'à cette époque-là, je voulais aussi me prouver et prouver au monde que la bienveillance humaine existe encore. Du coup, j'avais toujours assez pour vivre et pour survivre. Mais quand on fait du stop et quand on parle de nos rêves, de notre histoire à des inconnus qui nous prennent dans leur voiture, et croyez-moi que c'est une voiture sur 1000 qui va vous prendre parce qu'il y a très très peu de gens qui ont confiance, mais quand cette voiture-là, elle s'arrête, c'est des gens qui ont vraiment le cœur sur la main, qui font obstruction de leur peur et qui vont se dire « je vais aider cette jeune personne sur le chemin ». Et quand on écoute les histoires de chacun, en fait, ces gens-là, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aider, de s'aider les uns les autres.
Donc tu pars en Nouvelle-Zélande?
Donc je suis parti en Nouvelle-Zélande, j'ai passé un an et demi là-bas. J'ai pu explorer tout le pays, découvrir la culture maori, une autre partie de la culture anglaise aussi. Et à ce moment-là, j'ai découvert l'une de mes passions en tant que musicien et en tant qu'artiste de feu. J'imagine que beaucoup de gens ont des idées assez préconçues par rapport à ça, mais en gros, ce que j'ai fait, c'était vraiment à ce moment-là, je voulais découvrir qui j'étais en tant qu'artiste, en tant que créateur. Et pendant cette année et demie, j'ai eu la chance de rencontrer une femme merveilleuse qui est une chanteuse très connue en Nouvelle-Zélande, avec qui on a partagé une relation intime vraiment fascinante et qui m'a encouragé à découvrir toutes mes passions en fait, et à croire en moi et à me faire confiance. Et à partir de là, j'ai commencé à oser à offrir ce que je faisais au monde en fait.
Et donc tu as appris donc le feu, c'est ça, artiste de feu et musicien, c'est ce que tu es encore aujourd'hui?
Oui, c'est ça, et l'art de feu, alors ça pourrait se résumer à... Beaucoup de gens vont penser que c'est juste de la jungle et du cirque, mais en fait non, c'est de la danse, c'est de la chorégraphie, c'est de l'expression du corps, c'est du mouvement, mais c'est aussi pour moi très connecté aux arts martiaux auxquels j'ai été fasciné pendant des années, et du coup je mélangeais les arts des moines Shaolin, le Kung Fu et le Karaté dans ce que je faisais en tant qu'artiste de feu, voilà.
Mais c'est une sacrée vie, en fait, une vie sur la route qui ne s'arrête jamais, là, tu es dans la découverte quasi permanente.
Alors pour moi, je me suis dit au début, en partant, que j'allais me donner entre 3 et 5 ans pour faire le tour du monde, et pour comprendre qui j'étais, quel est le sens de la vie, et tout simplement aussi de découvrir la planète, parce que je pense qu'on l'oublie un petit peu tous les jours, on prend ça pour un acquis, mais on vit sur une planète extraordinaire. Autant au niveau humain qu'au niveau nature, qu'au niveau de la complexité de tous les écosystèmes qui existent. Et du coup, l'une de mes intentions, c'était aussi de me dire, j'ai envie de découvrir cette planète sur laquelle on vit, en profondeur, au coin du monde. Et à partir du Vanuatu, j'ai décidé de quitter cet équipage. Je suis rentré en Nouvelle-Calédonie, en fait, parce que là-bas, j'avais rencontré une tribu sur l'île d'Uvea. Je pense que tu as entendu parler des événements dans les années 80 sur cette île. Je parle des événements de 84, si je ne me trompe pas, où en gros, il y a une quarantaine de pères de famille sur cette île, des Kanaks, qui voulaient se battre contre la colonisation française et qui voulaient récupérer leur indépendance. Et je vais faire un résumé très grossier, très simple. Donc pour ceux qui écoutent et qui connaissent cette histoire, ne m'en voulez pas, c'est juste que je ne vais pas parler de tout ce qui s'est passé. Mais en gros, ces 40 pères de famille ont voulu un peu... montrer leur résistance et faire une révolution et récupérer la liberté de leur pays, de leur terre tout simplement. Et donc ils ont pris en otage quelques policiers sur l'île d'Uvea en leur promettant qu'ils n'allaient pas leur faire de mal, qu'ils voulaient juste mettre pression au gouvernement français. Et en fait ce que le gouvernement français, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé l'armée française. Ils ont envoyé des bateaux, des hélicoptères, des soldats, des mercenaires. Et au lieu d'arriver là-bas et de régler ça en paix, ils ont massacré tout le monde. Ils ont tué chacun des 40 pères de famille. Et du coup, moi, quand je suis arrivé sur cette île, et que ça faisait même pas 40 ans que ça s'était passé, cette histoire, j'ai rencontré beaucoup de jeunes de mon âge, entre 20 et 30 ans, qui me disaient, c'est mon père qui s'est fait tuer ce jour-là. C'est mon oncle, c'est mon cousin. Et en 20 ans d'Afrique, je n'avais jamais connu le racisme comme je l'ai connu en Nouvelle-Calédonie. Il y a encore là-bas une grande haine du blanc, de ce qui s'est passé à l'époque, et que je comprends tout à fait, pour laquelle j'ai toute la compassion et l'acceptation possible, parce que ce qu'on leur a fait, c'est terrible, du début à la fin. Voilà.
Pourquoi tu es retourné en Nouvelle-Calédonie? Quel était le projet ou le fil rouge ou l'intention de cette époque-là de ta vie?
Alors j'ai toujours rêvé, depuis que j'étais enfant en Afrique, de vivre avec une tribu, de vraiment m'immerger dans une culture qui n'est pas la mienne. Et aussi ça faisait déjà à peu près 2 ans que je voyageais et que j'avais souvent vécu avec des communautés, avec des gens tout le temps. Et du coup là j'avais envie en fait de paix et d'isolation et d'être un peu tout seul. Et je croyais que j'allais l'être sur cette île, mais pas du tout. En gros ils m'ont proposé de revenir. Quand on est parti au Vanuatu, j'avais cette idée qui continuait de germer à l'intérieur. Et quand j'en ai eu assez en fait de l'équipage et du bateau, je suis retourné en Calédonie, je suis retourné voir cette tribu et ils m'ont accueilli au départ comme un invité. Et puis au fur et à mesure, je suis devenu un ami, après je suis devenu un frère, après je suis devenu une partie de cette tribu. Et en fait, ils m'ont donné une petite maison en bois qu'ils avaient construite à côté de leur tribu dans la jungle, sans électricité, sans eau courante. Et ils m'ont dit, c'est toi le gardien de cette maison. Et c'est toi le gardien de la terre qui est tout autour, donc tu peux en faire ce que tu veux. Et pendant 8 mois, ils m'ont jamais demandé un loyer. Ils m'ont jamais demandé quoi que ce soit au niveau argent. Seule chose qu'ils m'ont demandé, c'est participe, fais partie de nous et montre-nous que tu vas être intégré. Donc, parce que j'ai fait, quand je suis arrivé, c'était la saison des champs. Et du coup, tous les matins, on allait marcher quelques kilomètres avec les outils de l'époque, la baramine, la pioche, et on allait planter l'igname, la patate douce, plein de légumes différents. Et eux, c'était vraiment leur source de nourriture principale pour toute l'année. Donc j'ai participé à ça, la saison des champs. Ensuite, je participais à la fabrication de l'huile de coco, qui était l'un de leurs grands revenus. J'ai participé aussi à la construction de plusieurs maisons dans la tribu. Et ça, c'est une expérience pour moi moi, qui a été l'une des expériences les plus touchantes et humaines que j'ai jamais vécues, c'est dans la culture kanak, ou en tout cas sur cette île, dans cette tribu, à Ouvéa, lorsque un jeune homme, entre 13 et 16 ans, va construire sa première maison pour sa compagne la plupart du temps. Mais en fait, dans toute cette tribu, tout le monde s'arrête. Pendant une semaine, tout le monde s'arrête de travailler et tu as 200, 300 personnes qui vont se réunir pendant une semaine et qui vont construire cette maison de la fondation jusqu'au toit, tous ensemble. Donc pendant une semaine, tu observes un enfant de 5 ans qui va donner un bout de bois à son père de 50 ans, qui va le donner au grand-père de 80 ans et tout le monde se passe les outils, le matériel, les ressources et tu vois toute une tribu en une semaine qui te construisent une maison à l'ancienne. Avec des troncs d'arbres qu'ils ont coupés eux-mêmes dans la forêt, avec un toit en feuilles de palmier. Et c'est juste extraordinaire de voir ça. Des gens qui sont prêts à tout mettre de côté pendant cette semaine-là, tous leurs conflits entre eux, tout leur travail, leurs projets, et juste être présents pour cette personne qui construit sa maison pour la première fois.
J'y vois là une sacrée leçon de vie dans des sociétés plutôt individualistes, où on est très loin du collectif, alors que le collectif peut nourrir énormément.
On est complètement d'accord là-dessus. Moi, je trouve que, pas qu'en France, hein, dans l'Occident en général, dans les pays surdéveloppés en général, on a perdu cette connexion à l'autre. On vit dans une constante peur d'autrui. Pourquoi ? Parce que, en fait, on vit dans une société malade qui agonise jour après jour et nos gouvernements tout autour du monde, au lieu de promouvoir justement la solidarité, la coopération, essayent de nous isoler de plus en plus parce que, bah en fait, un citoyen malade, un citoyen seul, terrorisé et qui a peur, bah ça reste un bon chien-chien en fait, qui va bosser, qui va pas se poser trop de questions. Et moi, je pense que c'est pour ça qu'on vit aujourd'hui dans un monde qui est vraiment malade de plusieurs manières. Et là-bas, dans ces lieux qui sont encore connectés à leur culture tribale, à leurs racines, à leurs origines, bah, en fait, ils se rendent compte que le pouvoir est dans l'unité, le pouvoir est dans la solidarité, dans des valeurs qu'aujourd'hui, on a hélas beaucoup perdu. Oui.
Comment s'est terminé ce chapitre de ta vie là-bas en Nouvelle-Calédonie ?
Alors disons que ça a été un chapitre qui n'a pas été si facile que ça parce que j'ai passé 8 mois dans cette maison, dans cette tribu. Et autant je pourrais parler des expériences les plus positives comme en Afrique, autant plusieurs fois j'ai failli y laisser la vie. Parce que, en fait, tristement, comme dans beaucoup de pays colonisés, en fait, l'alcool a absolument tout détruit. Et en fait, l'île d'Ouvéa, elle se situe à seulement quelques dizaines de kilomètres de la grande terre qui se fait appeler aussi le Petit Paris. Donc quand tu arrives là-bas, t'as vraiment l'impression d'être dans la capitale. T'as tout. C'est une petite ville avec la même pollution, avec les mêmes magasins, avec tout le bordel qu'on a en France. Mais du coup, c'est à quelques dizaines de kilomètres d'Ouvéa. Et bah, le problème, c'est qu'à l'époque, on n'autorisait pas les gens des tribus de rester sur leur île pour apprendre à l'école. On devait les envoyer au Petit Paris. Et du coup, bah, toute l'influence des villes, de l'alcool, de la drogue, et il y en a beaucoup qui sont devenus des criminels et qui ont ramené cette culture criminelle ensuite dans leur village, dans leur tribu, dans leur culture. Et du coup, moi, pendant ces 8 mois, bah, plusieurs fois, j'ai dû faire face à des jeunes de mon âge ou un peu plus vieux qui buvaient beaucoup trop, qui prenaient beaucoup trop de drogue et qui, au bout d'un moment, bah, switchaient leur perception et qui me voyaient juste comme le blanc, en fait. Le blanc qui a tué leurs parents, le blanc qui leur a fait du mal. Et c'est vrai que plusieurs fois, j'ai dû faire gaffe à ma peau parce que j'aurais pu me faire buter là-bas, littéralement. Parce qu'il y en a qui acceptaient pas que je sois le seul blanc qui habite sur cette île et qui fasse partie de ça.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Et donc, continue l'histoire.
Donc, l'histoire. Après 8 mois dans cette tribu où je sens que j'ai eu toute l'expérience, les aventures et on va dire le partage que je souhaitais avoir avec une tribu, d'avoir réalisé ce vieux rêve d'enfance, ben en fait j'ai décidé là de quitter cette île, de remercier tous les gens avec qui j'avais vécu, et ensuite de partir vers l'Asie pour la première fois. Donc je suis parti de la Calédonie vers l'Indonésie, et à partir de là j'ai découvert la culture asiatique. Parce qu'en fait quand j'étais dans l'océan Pacifique, j'avais le choix soit de partir vers l'Amérique du Sud, soit de partir pour l'Asie, mais je me suis dit que l'un allait me préparer pour l'autre. Donc l'Asie, c'est quelque chose qui m'avait appelé depuis très longtemps et j'ai commencé mon voyage en Indonésie, j'ai passé plusieurs mois là-bas, j'ai découvert l'île de Java qui au niveau culturel, au niveau nature est juste waouh. C'est une expérience grandiose de toutes les manières. Je suis allé aussi sur Bali, sur Lombok et plusieurs îles parce que je voulais découvrir ces lieux qui sont très atypiques. Et à partir de là, je suis parti vers la Malaisie, vers l'Inde, vers le Népal, j'ai fait le tour du continent pendant les 4 prochaines années.
Et là, je repose la question du modèle économique, donc tout ça en jonglant.
Alors comment je gagne ma vie? Dans tous les pays où je suis allé, pendant les 4 premières années de voyage, je travaillais de mes passions, mais je trouvais aussi des petits boulots à côté pour m'aider. Parce que en tant que musicien, au début qui n'était pas très professionnel et danseur de feu, pareil selon mes débuts, j'arrivais pas à gagner assez tout simplement. Donc à côté de mes passions, bah, je travaillais par exemple en Nouvelle-Zélande, j'ai travaillé dans un hôtel-restaurant 5 étoiles, le Château de Tangarero, où ils ont tourné Le Seigneur des Anneaux à l'époque, et j'ai passé 6 mois là-bas à travailler. C'était un travail que je détestais du début à la fin, mais que je devais faire parce que j'avais besoin d'argent pour continuer à voyager tout simplement. Donc 6 mois là-bas dans un pays quand même très développé, j'ai pu accumuler quelques milliers de dollars, on va dire, qui m'ont aidé à continuer. Ensuite, quand j'étais en Calédonie, sur cette île, en fait, ce qu'on faisait, c'est le travail principal de la tribu où j'étais, c'était de faire de l'huile de coco. Du coup, on passait nos journées pendant les 8 mois là à aller dans toute la jungle, à se balader et à faire tomber des centaines de noix de coco, à les cuire, à les préparer. Et ensuite, on emmenait tous ces sacs là à la Grande Terre, du coup, le Petit Paris, pour revendre tout ça. Donc, j'arrivais toujours à gagner assez pour continuer et en ayant quelques économies. Quand je suis arrivé en Asie, il y a une nouvelle passion qui s'est débloquée à ce moment-là, c'était en tant que massothérapeute. Du coup, j'ai fait des études de massage ayurvédique et c'était quelque chose que je pratiquais déjà depuis des années, mais là, j'ai essayé d'aller vraiment me former avec des professeurs, avec des yogis, avec des anciens de là-bas. Et du coup, à ce moment-là, j'avais déjà, on va dire, 3 travaux principaux de mes passions, mais aussi j'enseignais ce que je faisais. Donc, j'enseignais la musique, j'enseignais la danse du feu, mais aussi je partageais des moments, on va dire, de thérapie avec les gens, parce que en étudiant la psychologie à la fac, je me suis toujours rendu compte que j'ai ce don, on va dire, de pouvoir vraiment être présent pour les gens et de les accueillir tels qu'ils sont. Et les gens se sentent souvent très en confiance et ils peuvent venir s'ouvrir, être très vulnérables. Et du coup, même pendant mes voyages, des gens, des fois, me payaient juste pour qu'on ait des conversations, juste pour être l'un avec l'autre et qu'ils puissent se confier, parce que c'est quelque chose aussi qu'on a perdu, je trouve, dans le monde occidental. On n'a plus vraiment de vrais amis. On n'a plus vraiment une famille ou des gens autour de nous auxquels on peut parler de tout. Et quand je parle de tout, c'est vraiment se confier même par rapport aux choses les plus difficiles, les plus tabous, les plus honteuses. Et en fait, moi, j'ai commencé à se développer ce travail où en fait, je tiens un espace de confiance pour les gens pour qu'ils puissent venir s'exprimer par rapport à tout ce qu'ils traversent.
Et quand on a une vie en mouvement comme ça, complètement hors norme, c'est compliqué de s'arrêter, de bouger. Et c'est compliqué de s'intégrer dans une société qui marche sur la tête.
On est bien d'accord et c'est pour ça que je ne peux pas jusqu'à aujourd'hui m'installer en France, surtout avec ce qui se passe ces dernières années. J'ai l'impression que c'est un pays qui est en train de suffoquer, qui va pas tarder à vraiment se révolter très bientôt parce qu'on n'en peut plus tout simplement. Donc pour moi, oui, c'est difficile d'arrêter d'être en mouvement et en même temps, là, ça fait 2 ans à peu près que je me sens fatigué de voyager. Je me sens fatigué de tous les jours trouver une nouvelle maison, un nouvel endroit, de devoir remballer mes affaires, les redéballer, de rencontrer une communauté. Donc en 2 ans, j'ai beaucoup écouté mon corps en fait et ce que mon âme aussi voulait. Et j'ai demandé à la vie où est-ce que je peux m'installer parce que là, en fait, j'en peux plus d'être toujours dans le mouvement. J'ai besoin de m'ancrer, de m'enraciner, de créer des repères quelque part. Et du coup, depuis 2 ans, en fait, la vie m'a amené à aller vers le Costa Rica. C'est quelque chose qui s'est répété d'une manière quotidienne. Il y avait des signes par rapport au Costa Rica qui me disaient « il faut que j'aille là-bas ». Et du coup, depuis 2 ans, c'est ce que je fais. Je me suis installé dans ce pays et là, j'y suis pour le moment.
Et tu y fais quoi?
Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, maintenant, il y a quand même beaucoup de passions qui sont développées parce que entre mon époque en Inde jusqu'à mon installation au Costa Rica, ça m'a quand même pris 3 ans. Et alors, maintenant, je travaille toujours en tant que massothérapeute, mais j'enseigne aussi lors de retraites, de formations et de stages un peu partout dans le monde. Je fais beaucoup de cercles d'hommes et de retraites pour hommes, où aussi ce que j'essaie de faire le plus, c'est la reconnexion à la nature sauvage. Donc ce cercle, on s'est rencontré aujourd'hui, Alex. Pour moi, ce que je fais d'habitude dans mes retraites, c'est d'emmener un groupe d'une quinzaine, vingtaine d'hommes dans la nature sauvage, où on emmène toutes nos provisions. On va emmener une centaine de kilos de nourriture, 200 litres d'eau, on va amener toutes nos affaires et la première journée, on va apprendre à faire un camp. On va apprendre à vivre en coopération, en solidarité, à faire en sorte de juste être capable de créer une base ensemble et de se faire confiance et de se sentir safe. Et après, pendant les 3-4 prochains jours, en principe, on fait des pratiques pour se reconnecter au masculin, pour se reconnecter à la fraternité, pour vraiment recréer un modèle sain, on va dire, entre hommes. Voilà.
C'est un peu le modèle des rainbows aussi, finalement, cette reconnexion au vivant et à la nature.
C'est l'un des aspects du rainbow et je pense que c'est aussi un des aspects de la vie d'avant, en fait, qu'on avait en tant que tribu, en tant que civilisation qui était connectée à la nature et qu'on a oublié, en fait, avec nos sociétés modernes. Mais du coup, je pense que le rainbow est juste une petite partie des gens qui essaient de nous rappeler ce qui est vraiment essentiel et fondamental dans la vie.
La direction que tu as envie de donner aux années à venir, est-ce que là tu vas te poser un peu au Costa Rica ou est-ce que tu sais que le mouvement fait vraiment partie de toi et tu vas continuer à explorer différentes parties du monde?
Alors, au Costa Rica, là, je suis en train d'essayer de trouver une terre pour pouvoir vraiment m'installer. Mon rêve maintenant, en fait, c'est pas juste d'arriver et de créer mon propre projet à partir de rien, parce que je trouve que c'est beaucoup de destruction et d'égoïsme. Quand on pense à une personne qui a assez d'argent pour aller s'installer quelque part et au lieu de prendre part à des projets déjà existants, qui vont venir, vont acheter une terre vierge et vont tout détruire pour faire une route, une électricité, l'eau courante, etc. Et ensuite construire une maison, je me dis que c'est très égoïste parce qu'il y a déjà assez de projets, il y a déjà assez de communautés, assez de collectifs. Maintenant, il faut juste ramener les bonnes personnes. Donc moi, là, mon projet depuis un an et quelques, c'est je fais un peu le tour du Costa Rica pour trouver un éco-village. Je souhaite trouver un lieu où il y a plusieurs familles, plusieurs personnes qui ensemble ont acheté une centaine d'hectares et en fait se partagent cette terre. Donc à la différence d'une communauté qui vont souvent partager un très petit lieu et vivre tous ensemble et agir tous les jours ensemble, l'éco-village en fait c'est un lieu où toi et moi on a notre indépendance, on fait toujours partie d'un collectif, il y aura toujours des actions communes, mais on n'est pas obligé de se voir et de tout faire tous les jours ensemble. Donc moi c'est ce que je recherche ces temps-ci.
Sur une question que j'aime bien poser, le voyage, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que tu as envie de partager par rapport à cette vie de mouvement finalement?
Qu'est-ce que ça m'a appris? Waouh, mais grande question ça aussi.
Alors peut-être avant de te poser celle-là, c'est qu'est-ce que c'est que le voyage pour toi?
Le voyage, il est autant intérieur qu'extérieur et c'est tout d'abord une découverte, une exploration de soi au travers d'autrui, au travers du monde extérieur. Je pense que le voyage, c'est se permettre de voir au-delà de ce que la société ou notre entourage ou les médias nous offrent comme vision de la vie. C'est vraiment d'agrandir notre perception au point qu'on voit les choses de nous-mêmes et on comprend le monde de nous-mêmes au travers de notre réalité, de notre vérité. Donc pour moi, le voyage, c'est vraiment s'offrir le plus beau des cadeaux, en fait. Parce qu'on se sent capable d'avoir... le courage et l'audace de partir aux quatre coins du monde pour se dire ben en fait j'ai envie de comprendre qu'est-ce que c'est d'être humain, qu'est-ce que c'est d'être moi, qu'est-ce que c'est de vivre sur cette planète, qu'est-ce que c'est d'être dans telle culture ou dans tel pays. Et en fait c'est juste s'offrir le cadeau d'une compréhension plus ouverte sur la vie.
Et alors qu'est-ce que le voyage t'a appris?
Le voyage m'a appris qu'on vit vraiment dans un monde où il y a de tout. Et pas juste de la manière dont nos parents nous disaient à l'époque, il faut de tout pour faire un monde. C'est que non, vraiment, dans ce monde, il y a de tout. Et il faut l'accepter. Il faut l'accepter qu'il y a autant des guerres que de la misère extrême, que de l'esclavagisme, que de l'isolation, que des gens qui n'ont pas forcément des très bonnes intentions, mais qu'il y a aussi des expériences, des moments, des lieux, des personnes qui sont extraordinairement bienveillantes. Il y a, je dirais, autant de beauté, de merveille, de joie et de positivité que de tout ce qu'il y a de négatif et de terrible qu'on puisse imaginer dans ce monde. Et moi, ce que le voyage m'a vraiment appris, en fait, c'est de faire la paix. C'est de faire la paix avec moi-même, de faire la paix avec autrui, de faire la paix avec notre passé, en tant qu'humain, en tant que collectif. Et aussi de me dire qu'en fait, là, bah, toutes mes actions, j'ai envie qu'elles servent quelque chose de plus grand que moi. J'ai l'impression que le voyage, il m'a appris à pas forcément détruire mon ego, parce qu'on vivra tous avec un ego jusqu'à la fin, mais de me dire que mon ego, il va servir à aider, à soutenir, à faire partie de quelque chose qui va au-delà de ce que je suis. Donc ça m'a donné un sens où ça m'a fait comprendre déjà que la foi n'est pas forcément liée à la religion et que pour moi tout est vivant, tout a une conscience et qu'on fait partie d'une unité qui est bien au-delà de ce que notre petit mental peut réaliser ou comprendre. Donc le voyage m'a ramené vers ce sentiment d'unité et de paix intérieure. Même si ça paraît un peu hippie, blabla, spirituel, c'est non, vraiment, c'est un sentiment que je porte avec moi seulement depuis que j'ai commencé à voyager. Et de pouvoir observer le monde directement de mes yeux.
Mathéo, merci.
Merci à toi, Alex.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Vous venez d'écouter l'émission Regarde ailleurs, une émission que j'enregistre lors de mes différents déplacements en tant que photographe, reporter et voyageur. J'aime bien penser qu'une rencontre peut en inspirer beaucoup d'autres, et j'aime donner la parole à tous ceux qui ont un parcours de vie en lien avec le voyage, l'interculturalité, le mouvement ou la découverte du monde ou la découverte de soi.